RFI, 14h à Paris, 15h à Beyrouth, midi en temps universel.
RFI midi. Charlotte de Rouen.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Une demi-heure d'information consacrée presque exclusivement au Proche-Orient. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, est mort. L'information vient d'être confirmée par l'organisation chiite libanaise un peu plus tôt ce matin. C'est un porte-parole de l'armée israélienne qui l'avait annoncé. On fera le point dans un instant avec notre correspondant à Beyrouth. Hassan Nasrallah, objectif ultime de l'armée israélienne au Liban. Le dernier d'une longue liste d'ennemis qui Israël voulait et a réussi à éliminer. Nous serons aussi en Iran dans cette édition. L'ayatollah Khamenei a appelé tous les musulmans à se mobiliser et pour venir en aide au Hezbollah et aux Libanais. Puis restez avec nous, édition spéciale jusqu'à 14h30 sur RFI avec nos invités. Hassan Nasrallah a été tué. L'information vient d'être confirmée par le Hezbollah. Hassan Nasrallah était le secrétaire général de l'organisation depuis 32 ans. Il est mort donc dans une frappe qui a visé hier une zone de la banlieue sud de Beyrouth. Une frappe d'une très forte puissance qui a ciblé plusieurs immeubles dans une zone présentée par Israël comme le QG du mouvement. On vous retrouve en direct depuis Beyrouth, Paul Ralifé. Paul, le Hezbollah a donc confirmé la mort de son leader.
Oui, Charlotte, cette annonce officielle de la mort du secrétaire général du Hezbollah met fin à près de 20 heures d'incertitude et de doute pendant lesquelles les rumeurs les plus fantaisistes et les plus contradictoires ont circulé. Dans un long communiqué publié il y a une trentaine de minutes, le Hezbollah a annoncé que son chef a rejoint tous les martyrs tombés sur le chemin des prophètes et des imams après avoir dirigé le combat pendant 30 ans et conduit ses camarades d'une victoire à l'autre sur la route vers Jérusalem. Fin de citation. Le faire-part de décès ne mentionne pas les circonstances de la mort de Hassan Nasrallah et ne donne pas de détails sur l'identité des autres personnes mortes également pendant ce raid qui feront sans doute l'objet de communiqués séparés. Le commandement du Hezbollah s'engage dans le communiqué à poursuivre le combat en soutien à Gaza et à la Palestine et pour défendre le Liban et son peuple, et se dit prêt à consentir tous les sacrifices jusqu'à la victoire. Aucun mot non plus sur le choix d'un éventuel successeur à Hassan Nasrallah.
Paul Ralifé en direct de Beyrouth. La nuit dernière, les frappes se sont poursuivies au Liban dans plusieurs zones de la banlieue sud. Des centaines d'habitants ont fui dans la précipitation après un ordre d'évacuation lancé hier soir par l'armée israélienne. Des familles entières ont dormi dans la rue. L'armée israélienne qui dit avoir frappé plus de 140 cibles du Hezbollah au Liban depuis hier soir. Et ce matin encore, une nouvelle frappe aurait visé la banlieue sud de la capitale libanaise, fief du mouvement chiite. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
La mort d'Hassan Nasrallah, elle vient couronner pour Israël une stratégie qui a été mise en place depuis plusieurs mois avec l'élimination systématique des plus hauts responsables du Hezbollah.
Oui, avec une campagne de bombardement ciblant les principales figures du mouvement qui a commencé en janvier dernier avec la mort de Wissam Tawil, commandant de l'unité d'élite Al-Radwan, qui s'est poursuivie en juillet avec la mort de Fouad Chokher, le chef militaire du Hezbollah, et qui s'est brutalement accélérée ce mois-ci dans la foulée des explosions de Beeper et de Tokiwoki, explosions qui ont sans doute totalement désorganisé le mouvement chiite. Le 20 septembre, un bombardement faisait 15 tués parmi les membres d'Al-Radwan, dont le chef de l'unité Ibrahim Akil. Le 23, c'était Ali Karaki, considéré comme le numéro 3 du mouvement qui était visé. Le 24, Ibrahim Koubaïsi, responsable notamment des tirs de missiles et de roquettes au sein du Hezbollah. Il serait fastidieux de faire la liste de tous les responsables tués par Israël ces dernières semaines, mais il est certain que l'État hébreu avait pénétré l'organigramme du Hezbollah et était en mesure de localiser pour les frapper les principaux commandants du mouvement. La stratégie était donc d'éliminer les uns après les autres ces commandants et de décapiter toute une génération, celle qui avait fondé le Hezbollah au début des années 80. Une fois localisé, ce sont des bombardements massifs qui ont visé à chaque fois les lieux de résidence ou de refuge des commandants sans tenir compte des victimes collatérales, des nombreux civils tués ou blessés lors de ces frappes, avec comme objectif ultime, bien entendu, la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Daniel Valo, et après toutes ces pertes infligées au Hezbollah, les regards se tournent vers l'Iran, parrain de l'organisation libanaise. Aujourd'hui, le guide suprême iranien a réagi. Siavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant à Téhéran. Dans une première déclaration, l'ayatollah a appelé tous les musulmans à se mobiliser pour venir en aide au Hezbollah et aux Libanais. Il a aussi qualifié Israël de « chien enragé ».
Absolument, mais le communiqué qui a été publié, donc c'était une heure avant l'annonce officielle et la confirmation officielle de la mort de Hassan Nasrallah par le Hezbollah. Dans ce communiqué, le guide suprême iranien affirme que toutes les forces de la résistance doivent se mobiliser et apporter leur aide au Hezbollah. Il affirme également que le sort de la région sera déterminé par les forces de la résistance et non par Israël. Hassan Nasrallah était très proche de l'ayatollah Khamenei, qu'il considérait comme son leader politique. Toute la question est de savoir maintenant si l'Iran va franchir le pas et attaquer de nouveau Israël comme en avril dernier, lorsque 300 drones et missiles avaient été lancés contre le territoire israélien après l'attaque contre le consulat iranien à Damas. Mais dès hier, le premier ministre israélien avait lancé une mise en garde contre Téhéran en affirmant que si l'Iran attaquait Israël, il y aura alors une riposte directe contre le territoire iranien. Ces déclarations interviennent alors que certains médias affirment que d'autres gradés iraniens se trouvaient aux côtés de Hassan Nasrallah et auraient été tués lors de la frappe d'Israël.
Siavosh Ghazi en direct depuis Téhéran. Le Premier ministre français Michel Barnier a qualifié d'extrêmement grave la situation au Liban et affirme se préoccuper de la sécurité des Français sur place. L'Italie, de son côté, appelle aujourd'hui à mener tous les efforts diplomatiques pour relancer le dialogue entre les parties. La mort d'Hassan Nasrallah, on continue d'en parler dans quelques minutes sur RFI, édition spéciale avec nos invités, le journaliste Gabriel Blondel, journaliste à L'Orient le Jour, et le chercheur Adel Bakawan. En Ukraine, 9 morts dans une double frappe contre un hôpital dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays. Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, 2 frappes successives ont visé le bâtiment. La première a fait un mort et détruit plusieurs étages. Et puis la seconde est arrivée alors que les patients étaient en train d'être évacués. Washington accuse de nouveau Pékin d'alimenter la machine de guerre russe. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a une nouvelle fois hier fait part de la vive inquiétude des États-Unis sur le soutien apporté par la Chine à l'industrie de défense russe. Déclaration lors d'une rencontre avec son homologue chinois. Au moins 44 morts aux États-Unis après le passage de l'ouragan Helene. Les vents ont atteint jusqu'à 225 km par heure. Comme anticipé, la tempête a fait de gros dégâts sur le sud-est des États-Unis. Plusieurs millions de personnes se retrouvent sans électricité. L'heure est désormais aux réparations, mais dans les quartiers pauvres, il faut généralement attendre plus longtemps que dans les autres quartiers. C'est un phénomène bien documenté, Simon Rosé.
Rare par son ampleur, le passage destructeur d'Helene laisse une bonne partie du sud-est des États-Unis groggy. Mais après les vents et la pluie, place au nettoyage et à la reconstruction. 1500 personnes sont mobilisées en renfort par les autorités fédérales. Parmi les chantiers, remettre en état le réseau électrique, jusqu'à 4 millions de foyers ont été coupés du réseau. Une opération qui peut durer plusieurs jours dans certains endroits et plus encore dans les quartiers pauvres. Une étude de l'Université de Géorgie montre en effet, après avoir analysé les données de 15 millions de personnes, que la vitesse des réparations dépend grandement des revenus du foyer. Si ces revenus se trouvent dans les 20% les plus bas, il faut attendre une journée de plus. Les auteurs proposent une explication. Ces foyers, dont les habitations de moins bonne qualité sont déjà plus vulnérables aux catastrophes, se trouvent en plus loin des infrastructures sensibles et des gros nœuds du réseau. Or, la doctrine incite à réparer ces derniers en priorité. Ce délai entraîne alors un cercle vicieux. Les longues coupures occasionnent des pertes de nourriture, moins d'accès à l'eau courante et moins d'équipements pour lutter contre l'humidité stagnante et les moisissures.
Simon Rosé, au Népal, 59 morts et 44 disparus dans des inondations. Des fortes pluies ont provoqué également des glissements de terrain. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des disparus. Plus de 3000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour participer aux recherches. En football, le gardien argentin Emiliano Martinez, suspendu pour 2 matchs par la FIFA pour un geste obscène et une gifle à une caméra, une décision qui sanctionne son attitude lors de la Coupe du Monde de football. Emiliano Martinez sera suspendu pour les matchs de qualification en zone Amérique du Sud pour le Mondial 2026. Contre le Venezuela, le match aura lieu le 10 octobre, donc sans lui, et contre la Bolivie, le 16 octobre.
RFI Midi, édition spéciale, Charlotte de Rouen.
Et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI pour cette édition spéciale consacrée à cette annonce, la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, annonce confirmée par le mouvement chiite libanais, annonce qui avait été faite un petit peu plus tôt ce matin par le porte-parole de l'armée israélienne. On le rappelle, l'armée israélienne a visé hier en fin de journée plusieurs immeubles de la banlieue sud de Beyrouth, dont ce qu'elle a qualifié de QG de l'organisation. Pour en parler ce midi avec nous, Gabriel Blondel, vous êtes journaliste à L'Orient le Jour, bonjour.
Bonjour.
Avec nous également Adèle Bakaouane, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et spécialiste du Moyen-Orient, bonjour.
Bonjour.
Avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous propose de retrouver notre envoyé spécial Abla Junaidi à Beyrouth. Abla, l'annonce donc de la mort d'Hassan Nasrallah est officielle depuis une quarantaine de minutes maintenant.
Oui, l'annonce a été faite par Al-Manar, le média du Hezbollah, il y a moins d'une heure. Un communiqué a été lu à l'antenne, saluant la mémoire, je cite, du chef de la résistance, un grand martyr, mort en héros et promettant de poursuivre le djihad contre l'ennemi. C'est le message donc du Hezbollah aujourd'hui. Ce communiqué a été relayé par des présentateurs télévisés au bord des larmes. Parfois, beaucoup de Libanais, pas seulement la communauté chiite, considèrent le Hezbollah et son armée comme les garants, certes par défaut des frontières et le quasi unique soutien de la cause palestinienne ici. Une image, c'est vrai, écornée depuis quelque temps, depuis que le Hezbollah a accumulé les coups durs et la perte de plusieurs de ses commandants. La frappe mortelle d'hier et sa conséquence, la mort du chef du parti le plus fort au Liban, fait craindre à tous un basculement dans une conflagration régionale comme le pays n'en a jamais vu. Le communiqué du Hezbollah ne dit rien de la suite pour le mouvement. Et alors où je vous parle, les frappes israéliennes se poursuivent ici, se multiplient dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi dans d'autres régions, la Beka, le sud du Liban notamment.
Abla Junaidi en direct depuis Beyrouth. Beyrouth où vous vous trouvez également, Gabriel Blondel. Le temps était un peu comme suspendu hein, ce matin dans la capitale, libanaise. Pardon. On l'imagine dans l'attente justement de la confirmation ou de l'information de la mort d'Hassan Nasrallah.
Alors oui, tout à fait. Alors on commençait à s'en douter quand même vu le silence radio assourdissant du Hezbollah depuis hier soir et donc depuis la frappe aux alentours de 18h sur son quartier général dans la banlieue sud de Beyrouth. C'est très étonnant donc que le parti chiite ne communique pas du tout, hormis seulement quelques communiqués en fait sur ses boucles Telegram pour revendiquer des attaques sur des positions israéliennes. Il n'y avait aucun commentaire de la part du parti chiite, donc on se doutait que l'annonce devait sans doute être celle-là, et donc comme vous venez de le rappeler, elle vient à peine d'être officialisée il y a une heure, et donc c'est encore très difficile de mesurer quelle sera l'ampleur en fait de l'onde de choc que ça va provoquer à la fois pour le Liban sur sa scène politique, mais aussi dans les faits, quel sera l'effet immédiat dans le cadre de cette guerre. Donc il faut faire attention à toutes les conclusions hâtives par rapport à ça, mais on peut déjà percevoir quelques signes, notamment là, on vient d'entendre dans certains quartiers chrétiens de Beyrouth, des tirs de mitraillettes en l'air, un peu comme en signe de célébration. Parce qu'il faut savoir que Hassan Nasrallah, au-delà du fait qu'il était donc secrétaire général du Hezbollah depuis 32 ans, il incarnait pour beaucoup de Libanais cette idée donc de la résistance contre Israël. Il était à la fois donc une sorte d'icône, de mythe, qui était à la fois adulé et détesté en fait par les Libanais. Donc ça représente quelque chose en fait de sans précédent dans l'histoire politique du Liban. En tout cas, au moins depuis l'assassinat de Rafik Hariri en 2005, l'ancien Premier ministre. Et donc, ça la plonge encore plus le Liban dans l'inconnu.
Alors, on reviendra dans quelques instants un peu sur le parcours d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. Mais d'abord, Adèle Bakaouane, je voulais vous demander, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre la venue hier au siège de l'ONU de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et dans les heures qui suivent cette frappe massive contre le QG du Hezbollah à Beyrouth. Est-ce que ce déplacement, c'était une sorte de diversion?
Oh, je ne crois absolument pas. Israël cherchait bien évidemment des opportunités basées sur des informations précises, et ces informations précises pourraient arriver à tout moment. Donc je ne pense pas qu'il y avait un lien mécanique entre les deux événements. En revanche, la disparition de Nasrallah, on peut la considérer comme un événement majeur, très très important, équivalent de la disparition de Bin Laden pour Al-Qaïda. Oui, on peut dire la disparition, on peut dire Hassan Ben Nasrallah, c'est Bin Laden d'Al-Qaïda. Et donc un événement majeur, un événement très très important qui aura bien évidemment des conséquences non seulement à l'échelle libanaise, mais aussi à l'échelle moyen-orientale, ce que j'appelle la montée en puissance de l'ordre milicien depuis plusieurs années. Cet ordre milicien qui était à jour en Irak, au Liban, en Syrie, au Yémen, etc. Désormais, avec la disparition de Nasrallah, on peut le mettre en interrogation numéro un. Mais est-ce que c'est un événement déterminant? Non, je pense personnellement la disparition de Nasrallah ne détermine pas les grandes orientations des événements en cours au Moyen-Orient.
Mais est-ce que c'est un tournant, cette mort d'Hassan Nasrallah, pour le Liban?
Oui, absolument. C'est un tournant, comme Gabriel l'a bien dit, à partir de Beyrouth, Hassan Nasrallah, pour une partie importante des Libanais. C'est un symbole qui incarne la résistance contre Israël, qui défend la cause palestinienne. Mais pour une autre partie aussi importante, Hassan Nasrallah est considéré comme un problème et non pas une solution. Il faut le dire que le Hezbollah de Hassan Nasrallah est presque l'unique parti politique qui n'a pas été désarmé depuis les accords de Taïf. Autrement dit, par ses armes dans les rapports de force interlibanais, il a pu s'imposer presque à tout le monde.
Et justement, vous le disiez, hein, Hassan Nasrallah, il incarnait la résistance à Israël. Que représente aujourd'hui sa disparition vis-à-vis justement d'Israël?
Écoutez, c'est une question très importante pour moi. Pourquoi je dis la disparition de Nasrallah est un événement majeur, très important, mais non pas déterminant? Parce que tout simplement, celui qui détient la clé de l'orientation, la grande orientation de cette conflictualité, n'est pas le Hezbollah, n'est pas les Houthis, n'est pas les milices irakiennes, ou n'est même pas les milices syriennes. Celui qui dépose la clé, c'est la République islamique d'Iran. Or, aujourd'hui, on sait très bien la grande priorité, la première priorité des ayatollahs à Téhéran, c'est d'abord la survie du régime et ensuite la protection des installations nucléaires. Et enfin, avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement modéré, c'est le sauvetage de l'économie iranienne qui est à terre. Or, un embrasement régional, une entrée en guerre, une guerre totale ou régionale dans laquelle l'Iran sera engagé, c'est probablement, je dis bien probablement, la fin de ces trois priorités.
Alors l'Iran, on le rappelle, c'est le parrain du Hezbollah. Hier, l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth disait que les règles avaient changé. Pour vous, ça veut dire quoi? C'est encore une fois juste des mots, entre guillemets?
Pour moi, nous sommes encore dans la rhétorique. Je ne sais pas si vous avez étudié, vous avez lu la déclaration de Ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, il y a juste quelques minutes. Dans sa déclaration, un, il ne mentionne même pas le nom de Hassan Nasrallah. Deux, il demande à toutes les organisations miliciennes au Moyen-Orient de se ranger autour de Hezbollah, avec le Hezbollah contre Israël, mais pas un seul mot sur l'engagement d'Iran. Autrement dit, je suis totalement convaincu que la République islamique de l'Iran, pour ces trois priorités que j'ai citées, est totalement prête à sacrifier un par un tous ces groupes, une par une toutes ces organisations miliciennes, à condition que les intérêts suprêmes de la République islamique d'Iran seront protégés.
Est-ce qu'on peut dire finalement, en somme, Adel Bakawan, que pour vous, l'Iran est en train de lâcher ses alliés, notamment le Hezbollah?
L'Iran pourrait lâcher une par une ces organisations, y compris le Hezbollah libanais, y compris le Hezbollah libanais, y compris l'ordre milicien à l'échelle moyen-orientale, à condition que la République islamique d'Iran obtient des garanties sûres de la part des Américains, de la part indirectement des Israéliens, mais aussi des Européens, que le régime sera protégé et sauvé, que ces installations nucléaires ne seront pas touchées et qu'une normalisation avec Téhéran sera lancée après cette conflictualité.
Dans ce contexte particulièrement tendu, Gabriel Blondel, dans quel état d'esprit est la population libanaise?
Vous imaginez bien, donc, elle est totalement terrifiée. Après donc la nuit que les gens viennent de passer ici, où donc il y a eu vraiment un tapis de bombes qui a été envoyé sur la banlieue sud. Donc à peu près donc depuis cette première frappe dont on parlait tout à l'heure contre le QG du Hezbollah vers 18h30 jusqu'à 5h du matin, où les frappes se sont quasiment ont continué sans s'arrêter quasiment, et avec aussi donc le bourdonnement des drones qui n'arrêtent pas de passer autour de Beyrouth. Donc forcément, ça crée une situation de paranoïa et de panique aussi, qu'on peut voir encore une fois des gens donc quitter avec précipitation Beyrouth, et en prenant donc leurs voitures, leurs affaires, en les entassant à nouveau sur les toits de leur voiture, parce que beaucoup de ces personnes-là qui dormaient déjà soit dans des écoles, soit dans des rues à Beyrouth, avaient déjà fui en fait le Liban Sud, ou la Beka, qui avait donc été pilonné au début de la semaine par l'armée israélienne. Et là viennent s'ajouter donc tous les habitants de la banlieue sud, de Dahiyeh, qui donc là sont dans les trottoirs à Beyrouth et qui ne peuvent compter que sur l'aide donc des associations, des bénévoles qui se mobilisent tant bien que mal pour essayer de venir en aide à ces gens complètement démunis, qui ont dû fuir en fait avec précipitation leurs habitations au milieu de la nuit. Il y a eu des avertissements qui ont été publiés par les porte-paroles de l'armée israélienne environ une heure et demie avant que les campagnes de frappe reprennent. Donc vous imaginez bien que les gens sont totalement sous le choc, et on attend de voir la suite maintenant, car on se dit forcément qu'on n'est peut-être pas encore arrivé au bout de cette nouvelle séquence.
Et justement, quelle sera la suite ? Est-ce qu'il y a une vraie crainte forte d'une invasion terrestre de l'armée israélienne au Liban ?
Oui, c'est forcément un scénario qu'on est obligé de prendre en compte, quand bien même on sait que les dernières campagnes menées par l'armée israélienne au Liban Sud ont été très lourdes, pour notamment pour ses soldats. On voit quand même beaucoup de similitudes, pardonnez-moi, avec ce qui s'est passé en 2006, alors que les gens aussi disent déjà qu'ils n'ont jamais entendu autant de bombardements par rapport à 2006, ceux qui l'ont vécu en tout cas. Et donc on se dit que cette campagne de bombardement intense pourrait précéder donc une nouvelle invasion du Liban Sud, pour créer une fameuse zone tampon, comme en parle l'état-major israélien. Et donc c'est forcément un scénario que redoute tout le monde, car forcément une telle configuration redonnerait aussi au Hezbollah les capacités de pouvoir agir donc sur un terrain qu'il connaît très bien, car on voit pour l'instant son incapacité à répondre à tous les coups qu'il reçoit depuis donc 2 semaines, depuis l'attaque des beepers. On voit donc que ses frappes sur le territoire israélien n'ont quasiment aucun impact. Cela rendrait à nouveau le Liban comme un terrain de guerre donc au sol. Et forcément, on voit mal comment le Hezbollah pourrait ne pas réagir dans ce contexte-là, malgré tous les coups, encore une fois, qu'il a reçus depuis ces 2 dernières semaines.
Adel Bakawan, vous partagez aussi ces inquiétudes. Pensez-vous que ces dernières frappes sont peut-être le prélude à une incursion terrestre ?
Et il ne faut absolument pas exclure ce scénario. C'est un scénario tout à fait envisageable. Envisageable pourquoi ? Parce que le parti vient perdre son principe régulateur, son symbole, son chef charismatique et historique depuis à peu près 30 ans. Numéro 1. Numéro 2, les grands cadres dirigeants du parti sont éliminés un par un. Numéro 3, une bonne partie des infrastructures militaires du Hezbollah est détruite. Et numéro 4, et le plus important, c'est que le Hezbollah n'est absolument pas celui de 2006, au moment où il était perçu par le monde musulman. Et je dis bien le monde musulman, y compris le monde sunnite et chiite, comme ce référentiel qui incarnait la résistance. Non, aujourd'hui, le Hezbollah est relativement isolé dans le monde musulman sunnite. Et numéro 6, je ne sais pas, je suis arrivé à 5 ou 6, c'est que la stratégie iranienne n'est absolument pas celle de 2006. En 2006, on avait un certain Ahmadinejad à la tête de la République islamique d'Iran qui avait engagé un corps plus de discours conceptuels contre la disparition d'État Israël, du sionisme, etc., l'anti-sioniste, et qui menaçait même Israël de bombes nucléaires. Aujourd'hui, vous avez un président, même si nous dispose que des pouvoirs relatifs totalement différents. Il est modéré, il veut réconcilier son pays avec l'Occident, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Il a qualifié les Américains comme des frères, hein, ce qui est vraiment très, très rare. On passe de grand Satan aux Américains qualifiés comme frères, et donc le contexte est totalement différent. Pardonnez-moi, juste une dernière phrase, mais les Israéliens savent très bien qu'une invasion terrestre n'est pas des bombardements aériens, c'est totalement différent, c'est un autre paradigme, pardonnez-moi, c'est une autre problématique, c'est très très complexe. Donc c'est un scénario, mais ce n'est pas un scénario facile et simple, la décision sera bien évidemment bien étudiée.
Merci Adel Bakawan. David Bachet, vous êtes notre envoyé spécial en Israël. Vous êtes rendu ce matin à Kiryat Shmona, la dernière grande ville du Nord évacuée, qui se trouve à moins de 10 kilomètres de la frontière libanaise. Alors, comment réagissent les Israéliens que vous avez pu rencontrer à la mort d'Hassan Nasrallah ?
Alors, les gens à qui j'ai parlé ne cachaient clairement pas leur satisfaction. Hein. Certains avaient carrément le sourire, d'autres étaient plus réservés, plus pudiques. On parle quand même de la mort de quelqu'un, mais tous jugent clairement que l'élimination d'Hassan Nasrallah et plus globalement tous les coups portés ces derniers jours au Hezbollah sont nécessaires. Ils expliquent qu'il n'y aura pas de paix tant que le Hezbollah comme le Hamas continueront d'agresser Israël. À leurs yeux, ce sont ces deux mouvements islamistes, terroristes, qui sont à l'origine des représailles d'Israël, lesquelles sont perçues comme de la légitime défense. Et à leurs yeux, toujours, l'option militaire est la seule. Alors, tous ont bien conscience qu'il y aura des conséquences, que l'assassinat d'Hassan Nasrallah est un palier supplémentaire, et que ce palier supplémentaire qui vient d'être franchi, eh bien, maintenant, il y a la perspective d'une opération militaire terrestre de l'armée israélienne au Liban, et il y a également la perspective d'une confrontation directe avec l'Iran, une perspective qui semble désormais presque inévitable, hein, ou en tout cas dont la possibilité, en tous les cas, est plus que jamais dans toutes les têtes. Mais donc pour ces Israéliens du nord du pays, qui, je le rappelle, comptent 60 à 80 000 déplacés depuis un an, eh bien pour eux, c'est le prix à payer pour la sécurité d'Israël, et tous y sont prêts, quel qu'en soit le prix.
David Bachet en direct d'Israël. Un mot, Adel Bakawan, du renseignement et de la puissance militaire israélienne. Comme lors de l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran, l'attaque d'hier semble attester d'une supériorité évidente de l'armée israélienne.
Absolument. Tout ce qui a été perdu le 7 octobre 2023, c'est-à-dire il y a tout simplement une année, l'année dernière, le 7 octobre, Israël a perdu son symbolisme, Israël a perdu son image, Israël a montré une puissance en termes technologiques, en termes du renseignement, en termes de capacité sécuritaire affaiblie, hein, structurellement affaiblie. L'image d'Israël était totalement dégradée, mais depuis deux semaines, Israël a récupéré son référentiel en termes sécuritaires. Israël a récupéré son symbolisme. Désormais, Israël a démontré à toutes les puissances internationales, régionales et même toutes les organisations miliciennes que celui qui a la supériorité en termes de renseignement, en termes de la nouvelle technologie, et c'est Israël. Et Israël pourra frapper quand il veut, où il veut et à n'importe quel moment.
Un dernier mot, il nous reste 30 secondes, Adel Bakawan. Est-ce qu'il faut relier cette frappe, selon vous, à l'approche du 7 octobre et donc du premier anniversaire, entre guillemets, des attaques du Hamas dans le sud d'Israël ?
Non, absolument pas. Absolument pas. Il ne faut pas simplifier, il ne faut pas montrer un mécanisme dynamique entre ces événements. Non, moi, je pense personnellement, c'est un processus très, très complexe, qui a plusieurs étages, qui a plusieurs niveaux politiques, diplomatiques, sécuritaires, militaires, etc., etc., qui amène Israël à réagir à ce moment-là, d'où cette façon-là, et non pas parce qu'on arrive à l'anniversaire du 7 octobre.
Merci beaucoup Adel Bakawan, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient, d'avoir été avec nous ce midi sur RFI. Merci à vous également, Gabriel Blondel, journaliste à L'Orient le Jour. Merci à Steven Hesley à la réalisation, à Sigrid Azeroual et Sylvie Noël qui m'ont aidé à préparer cette édition spéciale. Restez avec nous sur RFI dans 10 secondes, c'est Afrique Midi.